Vous écoutez, on lit pour vous.
Les vols, les pertes et la violence sont en hausse. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 15 mai 2025 dans La Presse. Face à la hausse des vols à l'étalage dans les magasins, des blitz d'opérations policières auront lieu partout au pays. Un couple avec un jeune enfant qui entre dans un magasin et ressort en douce avec une poussette impayée, un client qui fait mine de passer à une caisse automatisée et qui quitte les lieux avec un panier rempli sans avoir sorti son portefeuille. Les pertes liées au vol à l'étalage au pays sont évaluées à 9 milliards de dollars. Et pour lutter contre ce fléau, des opérations policières sous forme de blitz se tiendront partout au Canada, notamment au Québec. De leur propre aveu, les détaillants se sentent bien impuissants face à ce phénomène constamment en hausse. Près de 37 % des Canadiens ont été témoins d'un vol en 2024, révèle un sondage mené par le Conseil canadien du commerce de détail, CCCD, en partenariat avec Cadol. Alors que les employés reçoivent habituellement le mot d'ordre de ne pas se lancer aux trousses d'un voleur de manteau ou de parmesan, les policiers, souvent occupés ailleurs en raison d'un grand nombre d'appels pour toutes sortes d'interventions, tardent parfois à se rendre sur les lieux du délit. Entre 2018 et 2024, les pertes entraînées par le vol à l'étalage ont presque doublé, passant de 5 milliards à 9 milliards, selon les chiffres fournis par le CCD. Pour le Québec, elles sont évaluées à 2 milliards. Les vols sont en hausse, les pertes sont en hausse et la violence qui vient avec vol est en hausse, confirme en entrevue Marc Lapointe, directeur principal sécurité et résilience de l'entreprise chez Métro. On ne court pas après les voleurs. Ce sont des gens bien organisés. Ils n'agissent pas seuls. On n'a pas beaucoup de pouvoir, ajoute pour sa part Jessica Roussy, propriétaire de Mode Choc, qui compte 11 magasins. Devant la gravité du problème, qui peut nuire à la rentabilité des commerces, affirme Michel Rochette, président du CCCD pour le Québec, une vaste opération a été lancée par le regroupement qu'il représente en collaboration avec différents corps policiers. Des interventions se tiendront notamment ce jeudi et vendredi au Carrefour Laval et à Terrebonne. Dans le cas de Laval, par exemple, une vingtaine de policiers arpenteront le centre commercial et se tiendront aux aguets, prêts à intervenir dans l'immédiat si un commerçant est victime d'un vol. Le service de police de Laval reçoit quotidiennement des appels en provenance du Carrefour pour des vols à l'étalage, nous a-t-on confirmé. D'autres opérations du même genre se tiendront au cours des prochains mois au Québec. Selon M. Rochette, cette initiative a fait ses preuves ailleurs au Canada. Elle envoie le message aux détaillants d'être aux aguets. Elle contribue à défaire les habitudes des récidivistes et envoie le signal que le vol n'est pas un acte impuni, soutient-il. Et ce genre d'intervention est également salué par les détaillants que nous avons interrogés. C'est une bonne nouvelle. Il faut être proactif plutôt que réactif, dit Mme Roussy. Oui, ça nous aide, estime également M. Lapointe. Ça fait partie d'un bouquet de solutions. Il ajoute dans la foulée que tout ce qui est dissuasif peut aider à diminuer le nombre de méfaits. Et pour tenter de contrer ce fléau, bon nombre de détaillants, comme les pharmacies, mettent certains articles sous clé, les préparations pour nourrissons, les brosses à dents électriques et les parfums font partie des articles placés dans des présentoirs verrouillés chez Jean Coutu. Donne en exemple M. Lapointe. Perte d'argent et de clients. Autre élément préoccupant pour les détaillants, 54 % des gens témoins d'un vol modifient leur comportement d'achat, allant jusqu'à changer de commerce ou d'horaire de magasinage après avoir assisté à un tel méfait, révèle le sondage de Cadle. Nos données indiquent que les détaillants sont triplement touchés par ce type de crime. Ils subissent des pertes financières directes, perdent la confiance de leur clientèle témoin, qui ne souhaitent plus revenir et doivent investir davantage dans la protection de leur commerce, sans compter les risques pour l'ensemble des personnes présentes en magasin. Conclut Michel Rochette. C'était « Les vols, les pertes et la violence sont en hausse ». Un texte de Nathaël Morissette, paru le 15 mai 2025, dans La Presse.
La sécurité des humains avant la fluidité du trafic, dit Valérie Plante. Un texte de Marco Fortier, paru le 16 mai 2025 dans Le Devoir. La sécurité des humains avant la fluidité de la circulation automobile. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, assume le virage vers des rues apaisées qui a transformé la métropole depuis 2017. Les pistes cyclables et les aménagements visant à protéger les piétons changent les habitudes de mobilité. Jusqu'à 24 % des déplacements se font à vélo à l'heure de pointe du matin dans les quartiers centraux, révèlent des données toutes fraîches que Le Devoir a obtenues. Le district de Lorimier, qui englobe une partie du plateau Mont-Royal, a résolument adopté le vélo. Pas moins de 23,7 % des déplacements du matin se font sur deux roues dans ce secteur, une part modale presque digne d'Amsterdam ou de Copenhague, a souligné Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité active au comité exécutif de la Ville de Montréal. Environ la moitié des gens se rendent à l'école ou au travail à vélo dans ces paradis cyclistes, mais la métropole québécoise fait des progrès notables. Des statistiques dévoilées la semaine dernière par l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, montrent que les vélos gagnent du terrain dans les quartiers centraux de l'île. Une douzaine d'autres secteurs, dans le plateau, Rosemont-la-Petite-Patrie, Verdun, Ville-Marie, Ahuntsic, Villeray et Hochelaga, affichent une part modale du vélo oscillant entre 10 % et 17 % à l'heure de pointe du matin. La mairesse Valérie Plante a insisté, lors de la séance du conseil municipal cette semaine. Son administration compte continuer la transformation de la mobilité en ville, par l'aménagement de pistes cyclables, de voies réservées aux autobus et d'infrastructures pour les piétons, d'ici à la fin de son mandat, en novembre 2025. Lundi soir, la mairesse s'est levée pour répondre avec vigueur à un citoyen qui lui reprochait de faire perdre du temps aux automobilistes pour plaire aux cyclistes à cause du prolongement prévu de la piste cyclable du chemin de la Côte-Sainte-Catherine près de l'avenue du Mont-Royal. « Tout le monde a le droit d'être en sécurité », a affirmé Valérie Plante. Entre la sécurité des humains et la fluidité des bolides, des voitures, nous, notre camp, on l'a choisi. La sécurité des gens va toujours primer sur le reste. Quand il y a des collisions et des gens qui meurent, ce sont toujours des gens qui sont à pied ou des gens qui sont à vélo. Ce jour-là, la mairesse a défendu son bilan des 8 dernières années en matière de mobilité. Elle a reconnu que l'aménagement de pistes cyclables lui a valu beaucoup de vent dans la face, mais elle garde le cap. Cyclistes et piétons en péril. Valérie Plante affirme transformer la ville pour protéger les usagers les plus vulnérables. Elle a fait aménager le réseau express vélo REV de la rue Saint-Denis en 2020 parce que plus de 300 collisions avaient été signalées sur cette artère en moins d'une décennie. La ville s'apprête aussi à sacrifier deux voies de circulation motorisées pour construire une piste cyclable et des traverses de piétons sur la rue Hochelaga, une autre artère décrite comme « accidentogène », où 398 collisions ont été recensées en 6 ans sur le premier tronçon de 2,5 km qui fera l'objet de travaux à l'été 2025. Les décès de piétons et de cyclistes sur nos rues sont en croissance et deviennent un fléau au Québec, a souligné récemment au Devoir Sophie Moserolle, responsable des transports au comité exécutif de la ville. Les collisions ont tué 161 piétons et 23 cyclistes sur l'île de Montréal au cours des 10 dernières années. Il meurt deux fois plus de marcheurs que de conducteurs dans la métropole. C'est autant de piétons décédés que de soldats canadiens tués durant la guerre en Afghanistan une décennie auparavant. Il faut ajouter à ce lourd bilan 743 piétons et 246 cyclistes qui ont subi des blessures graves. Cela représente 18 autobus bondés de la STM. Rééquilibrage de l'espace public. Les faits parlent, les données sont là, on ne peut pas les nier, a lancé Valérie Plante pour justifier les chantiers visant à apaiser la circulation, surtout dans des rues artérielles comme Henri Bourassa, Saint-Urbain, Hochelaga, Lacordaire et Christophe-Colomb. 9 collisions graves ou mortelles sur 10 surviennent sur ce type d'artère. L'administration Plante soutient que ses efforts en vue de rééquilibrer le partage de l'espace public pour faire plus de place aux vélos, aux piétons et aux autobus portent leurs fruits. Le vélo se taille une place aussi dans le vieux Longueuil, juste de l'autre côté du pont Jacques-Cartier, avec 6,4% des déplacements à l'heure de pointe du début de journée. Il s'agit d'une part modale du vélo nettement supérieure à celle constatée dans la majorité des arrondissements montréalais. Moins de 2% des déplacements se font sur deux roues dans les quartiers éloignés du centre de l'île. Un gage de succès. Jean-François Rault, président-directeur général de Vélo Québec, constate que les cyclistes embarquent lorsque les villes aménagent des infrastructures où ils se sentent en sécurité. Les pistes cyclables sont un des sujets les plus clivants en politique municipale. Mais les maires qui misent sur un partage plus équitable de la chaussée ont généralement du succès, souligne-t-il. L'ancien maire de Vancouver, Gregor Robertson, vient d'être nommé ministre dans le gouvernement de Mark Carney, après avoir donné un coup de barre en faveur du vélo dans cette ville de la côte ouest. Les maires ou ex-maires de Calgary, Ottawa, New York et Paris se démarquent aussi par leur victoire électorale sur fond de promotion des déplacements à vélo. Le Parti Ensemble Montréal, qui forme l'opposition à l'Hôtel de Ville, dit appuyer le principe de protéger les usagers les plus vulnérables, aînés, enfants, piétons et cyclistes. L'ensemble des élus partage cette idée. Ce n'est pas le monopole d'un parti politique, a déclaré au conseil municipal la conseillère Alba Zuniga Ramos d'Ensemble Montréal. Elle a reproché à l'administration Plante son manque de consultation avant les chantiers qui transforment des artères importantes partout en ville. L'élimination de cases de stationnement crée beaucoup de frustration chez les riverains. Il faut travailler ensemble avec les commerçants et les citoyens, touchés par les réaménagements proposés, a-t-elle dit. C'était la sécurité des humains avant la fluidité du trafic, dit Valérie Plante, un texte de Marco Fortier paru le 16 mai 2025 dans Le Devoir.
Les trésors des Ursulines dévoilés, un texte de Karine Duplessis-Pichet, paru le 19 mai 2025 dans la presse. À la suite d'importantes rénovations, le musée du pôle culturel du monastère des Ursulines présente une nouvelle exposition nommée « Grandir chez les Ursulines ». La visite lève le voile sur 4 siècles d'enseignement avant-gardiste en présentant des pièces d'archives inédites. Caché dans les rues étroites de la vieille ville, le monastère des Ursulines passe facilement inaperçu. Son musée mérite toutefois le détour, car il abrite d'innombrables trésors, dont certains remontent à la fondation de la Nouvelle-France. Plusieurs de ces artefacts sont présentés pour la première fois dans le cadre de la nouvelle exposition « Grandir chez les Ursulines ». La directrice, Sophie Limoges, souligne que le mot « grandir » n'a pas été choisi au hasard. Les Ursulines, dit-elle, sont connues pour leur rôle d'enseignante. On a voulu mettre en valeur des facettes moins connues de leur œuvre qui a duré presque 400 ans. La nouvelle exposition permet ainsi de découvrir le côté entrepreneurial des religieuses. Elles ont, au fil du temps, vendu des pâtisseries et des œuvres d'art afin d'assurer la pérennité de leurs établissements. Le musée met également en lumière les qualités d'adaptation des fondatrices de la première école pour filles en Amérique du Nord. Par exemple, elles enseignaient à leur arrivée sans calendrier fixe. De cette façon, les élèves pouvaient retourner dans leur famille pour aider aux tâches saisonnières. Elles ont aussi mis en place des classes extérieures pour intéresser les élèves au contenu scolaire, comme en témoignent plusieurs photos d'archives. L'exposition permanente se déploie dans 6 salles. L'une des plus marquantes présente divers objets de science, comme des globes célestes et terrestres, ainsi que des microscopes. On y apprend que dès le début du 19e siècle, les Ursulines ont ajouté l'astronomie, la botanique, la physique, la chimie et la géologie à leur programme scolaire. Ces matières étaient rarement enseignées aux femmes à l'époque. Elles ont contribué à l'école moderne et à l'avancement de la femme, rappelle Sophie Limoges. Parmi les artefacts exposés, le planétaire de Copernic a été rapporté de Paris en 1837 par le frère d'une des membres de la congrégation. L'enseignement des sciences par les religieuses est si riche qu'il a inspiré l'historienne Mélanie Lafrance à écrire un livre. Celui-ci est offert à la boutique du musée. Objet précieux. Il a fallu 4 années à l'équipe du musée pour mettre sur pied la nouvelle exposition. Les recherches ont permis de restaurer des objets anciens, dont un coffre de bois qui aurait appartenu à Marie de l'Incarnation. Le document autorisant les religieuses à fonder une école pour jeunes filles en Nouvelle-France, signé par le roi Louis XIII en 1639, fait aussi partie de la collection. Afin de présenter ces artefacts inédits au public, le musée du pôle culturel du monastère des Ursulines a investi plus de 1 million de dollars. Avant de mettre en valeur des œuvres d'importance, on souhaitait offrir les conditions de conservation les plus appropriées, ajoute Sophie Limoges. Pour ce faire, on a renouvelé le système électromécanique. On a aussi agrandi par l'intérieur afin d'avoir un lieu d'accueil plus grand. Car les familles sont entre autres de plus en plus nombreuses à venir au monastère des Ursulines, observe-t-elle. En 2024, une autre initiative a connu un vif succès. Pour la première fois, le monastère a ouvert ses salles de classe au public. L'intérêt a été si grand que la visite s'est déroulée à guichet fermé. Elle sera offerte de nouveau à l'été. C'était « Les trésors des Ursulines dévoilés », un texte de Karine Duplessis-Pichet, paru le 19 mai 2025 dans la presse.
Chloé Robichaud vous présente enfin ces 2 femmes en or. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue. Chloé Robichaud pourrait faire exploser le box-office pour la première fois avec l'adaptation du film « Deux femmes en or ». La réalisatrice à qui l'on doit « Féminin, féminin » s'est déjà taillé une place de choix dans la cinématographie avec « Sarah préfère la course »,« Pays » et « Les jours heureux ». Mais le travail qu'elle a accompli avec le savoureux scénario de Catherine Léger et les performances de Karine Gontier-Heinemann et de Laurence Leboeuf ont le potentiel de faire courir les foules. Quand as-tu vu le film original la première fois? À 18 ans, durant mes études en cinéma au Cégep Garneau de Québec. On parlait du courant des années 1970 et des films de fesses comme Valérie. Ça m'avait frappé à quel point c'était révolutionnaire dans ces années-là de voir deux femmes au foyer s'approprier leur sexualité. Pourtant, on n'en parlait pas comme ça en classe. On faisait surtout allusion à sa cote 6, pauvre, sur Mediafilm, alors que l'âme du film a quelque chose de très féministe. Avais-tu vu l'adaptation théâtrale de Catherine Léger avant de lire son scénario? J'ai d'abord lu le scénario il y a 5 ans. À ce moment-là, sa pièce avait été jouée uniquement à Carleton et je n'avais pas eu la chance de la voir. Je suis une grande fan de son travail. J'ai vu presque toutes ses pièces. Elle a un ton unique, un humour singulier, un féminisme complexe et décomplexé. Il n'y avait aucun doute que je voulais me lancer là-dedans. Catherine Léger a marié quelques éléments de l'histoire originale avec plusieurs enjeux contemporains. Comment décrirais-tu cet équilibre? Un travail de dentelle. Elle est allée chercher l'âme du film original. En 1970, ces deux femmes-là étaient prises chez elles parce qu'elles étaient femmes au foyer. Aujourd'hui, comment justifier que deux femmes soient prisonnières de leur maison? Catherine a pensé au congé maternité et aux impacts de l'allaitement et de la maternité sur le corps, puis à la dépression chez les femmes. Ces deux enjeux sont tellement contemporains, c'est devenu l'âme de notre adaptation. Le ton est à cheval entre le drame qui n'est pas lourd, l'humour fin et certains gags éclatants. À quel point était-ce difficile de rendre justice à cette proposition? Tôt dans le processus, j'ai mentionné que son texte était un immense cadeau et un énorme défi. Je voulais être dans un univers réaliste auquel on peut s'identifier. Même il y a aussi du surréalisme dans son écriture. Comment rimer tout ça? Ça a nécessité beaucoup de discussions. Il y avait des lignes de dialogue ou des scènes où on poussait un peu trop de burlesque. On a fait du dosage à l'écriture ensemble. Ensuite, il fallait trouver les interprètes qui comprendraient son timing comique. Que cherchais-tu d'autre pour jouer les deux rôles principaux? Je voulais deux femmes complémentaires dans leurs énergies, avec une chimie crédible. C'est un film culte dans l'histoire du cinéma québécois. Je sentais la pression du projet. Ce sont des rôles importants. Je voulais aller à la rencontre de grandes comédiennes pour trouver la bonne Violette et la bonne Florence. Je regardais le timing comique naturel des actrices. Dans un scénario aussi verbeux, tout passe par les dialogues. Il fallait donc une lecture quasi inconsciente des gags. Laurence Leboeuf, je la trouvais étonnante en comédie. Elle apportait une naïveté et une force tranquille dont on a besoin chez Violette. Karine Gontier-Heinemann, je savais qu'elle était drôle, mais elle ajoutait une fougue, une rébellion et une authenticité incroyables. Comment avez-vous choisi la ribambelle d'acteurs et d'humoristes qui interprètent les amants et les chums dans le film? Le film original avait des humoristes très connus comme Yvon Deschamps et Gilles Latulippe. Je voulais leur faire un clin d'œil en trouvant des humoristes capables de rentrer dans le ton du film. Je leur disais d'emblée, il n'y a pas de one-man show et je veux qu'en dehors du Québec, les gens ne se rendent pas compte que vous êtes des humoristes. À Sundance, les gens les voyaient comme des acteurs comme les autres. On voulait aussi jouer avec l'idée des sex-symboles québécois comme Claude Legault, Maxime Le Flaguet et Claude Bégin. Dirais-tu que l'esthétique de Deux femmes en or est différente de tes autres projets? Depuis quelques années, j'ai envie d'offrir un cinéma plus généreux. Pas que mes autres films ne l'étaient pas, je suis très fier de ma filmographie, mais quelque chose s'ouvre en moi. Deux femmes en or, c'est extrêmement différent des Jours heureux dans la facture visuelle, les couleurs et le ton. Cela dit, il y a dans les deux une générosité. Il y a des surprises amusantes dans Deux femmes en or. Mes choix de mise en scène sont faits en fonction des spectateurs. Ils font de plus en plus partie de ma réflexion. Voulais-tu gâter le public en choisissant des chansons de femmes fortes québécoises? Je suis contente que tu l'aies remarqué. Oui, je voulais leur rendre hommage. Depuis le film original, il s'est passé 55 ans. J'avais envie de retracer les femmes de ces années qui ont construit le Québec et qui nous construisent comme femmes aujourd'hui. Le film est aussi tourné en pellicule. Il y a des petites références rétro. Je voulais montrer qu'on a évolué, mais à quel point? Sommes-nous en danger parfois de revenir en arrière? Absolument. Ce côté moderne versus nostalgie versus rétro, c'était pour parler de ça. En quoi ta posture de femme lesbienne a-t-elle eu un impact sur le projet? Il n'y avait pas de caméo homosexuel dans le scénario au départ. Après ma première lecture, j'ai suggéré qu'il y ait une histoire avec une femme. Catherine y avait déjà pensé et elle était d'accord. En plus, c'est ma blonde, Catherine Levac, qui fait le caméo. Ensuite, je dirais que c'est plus ma posture de femme. J'avais une grande sensibilité au female gaze en comparaison avec le male gaze. Je voulais qu'on présente le corps féminin d'une façon inattendue. Dans le film de 1970, il y avait beaucoup de nudité et je voulais jouer avec les attentes. Oui, on va voir les filles nues, mais si on voit des seins, ça va être quand Violette allait. Ou on va voir des fesses quand Florence s'installe pour uriner. Le corps féminin n'est pas que sexuel. Et je voulais filmer les scènes de sexualité dans la sensualité et dans ce que ça générait comme sensation chez elle. Que signifie la sélection du film au Festival de Sundance? J'en rêvais pour ce film-là. C'est un festival de cinéma indépendant qui a fait de la place à d'incroyables comédies dramatiques que j'aime beaucoup. Un événement avec des films mainstream d'auteurs. Je veux rejoindre le grand public avec une signature d'auteur. C'était Chloé Robichaud vous présente enfin ces deux femmes en or. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 20 mai 2025 dans le magazine Fugue.